Vous écoutez RTL. RTL Soir,
on refait le monde avec Stéphane Carpentier.
Et comme tous les soirs de la semaine, on refait le monde jusqu'à 20h et ce vendredi soir avec Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonsoir Yves.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Très en forme. Isabelle Saporta, chroniqueuse de RTL. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
Olivier Ravanello, le fondateur d'Explicit, est avec
nous. Bonsoir, moi aussi je peux le faire très fort.
Et peut-être que nous aurons la joie d'accueillir Xavier Couture.
Qui est en retard.
Il est le bienvenu.
Mais il va venir. Pour analyser ce soir tous ensemble les bons chiffres du chômage en France au quatrième trimestre 2018, le nombre de demandeurs d'emploi qui n'ont exercé aucune activité est en baisse de 1,1%, soit 42 000 personnes en moins inscrites à Pôle emploi. Une bonne nouvelle, en tous les cas une belle surprise, alors que le chômage avait légèrement rebondi au troisième trimestre. Il faut malgré tout, puisque vous avez bossé le dossier, on va commencer avec Olivier, pas s'enflammer.
Oui, moi je me demande au fil des années si cet indicateur du chômage est vraiment le plus pertinent. Et que lorsqu'on regarde les chiffres bruts, ils sont beaucoup plus inquiétants de mon point de vue. Quand on voit qu'il y a 6 millions de personnes qui sont en catégorie A, B ou C, c'est-à-dire qui grosso modo sont pas fixés sur un emploi, qui sont demandeurs d'emploi, qui peuvent avoir un job de manière très partielle, mais qui quand même n'ont pas retrouvé une stabilité via l'emploi et donc via leurs revenus. Donc vous avez 6 millions de ces personnes-là qui sont fragiles encore. Et puis vous avez des gens qui, certes, ont un emploi, mais avec un tel niveau de revenus et un niveau de vie qui a tellement monté, et on le voit avec la crise des Gilets jaunes, que ça ne permet pas de vivre vraiment bien ni décemment. Je ne sais pas si vous avez ce chiffre en tête, la moitié des salariés gagnent moins de 1 700 euros. La moitié des salariés français gagnent moins de 1 700 euros. 70% des salariés français gagnent moins de 2 200. À vivre aujourd'hui avec 1 700 euros, si vous êtes seul à porter un foyer sur les épaules, vous n'y arrivez pas. Et que on peut se réjouir de plus 40 000, moins 40 000, comme on le fait à chaque mois ou à chaque trimestre, mais je pense qu'il nous manque d'un indicateur qui serait juste un indicateur de la richesse réelle des Français.
Xavier Couture est arrivé. Bonsoir Xavier.
Bonsoir à tous.
Isabelle Saporta.
Écoutez, moi j'ai lu l'excellente alternative économique pour nous ce soir et je suis tombée sur le chiffre des seniors. Et en fait, on a 1 430 000 seniors au chômage. C'est 3 fois plus qu'en 2008. Ça a explosé. Il reste en moyenne 580 jours au chômage. 2 fois plus que les jeunes. Donc, si vous voulez, il y a un moment, il faut aussi se rendre compte de certaines réalités. C'est-à-dire qu'on est là en train de se réjouir d'une diminution, mais regardons catégorie par catégorie. C'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. Et quand on regarde la catégorie des seniors, entre la crise et l'allongement de la durée de cotisation, sauf que les entreprises ne jouent pas le jeu et que nous n'avons pas fait, comme en Scandinavie, une politique d'accompagnement pour les entreprises. Donc moi, j'aimerais bien aussi qu'on s'occupe, parce que je pense aussi que dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a aussi tous ces seniors qui sont laissés pour compte, qui sont mis au chômage aujourd'hui et qu'on délaisse.
Seniors dans le rouge, chômage longue durée dans le rouge aussi. La bonne nouvelle, c'est les jeunes.
Heureusement. Écoutez, ça, c'est déjà une bonne chose.
Yves Tréhard.
Oui, moi, j'adhère à ce qui vient d'être dit, mais je voudrais ajouter d'autres choses. D'abord, c'est vrai que le chômage n'est pas un des thèmes des Gilets jaunes, parce que c'est vrai que la sociologie des Gilets jaunes, c'est plutôt des gens qui travaillent, mais qui ont des très faibles revenus, ou des faibles revenus, et qui ont du mal à finir leur fin de mois. Mais ce qui est dommage, c'est que la problématique du chômage ne soit pas au cœur, quand même, du sujet, parce qu'elle rejoint le problème de... Qu'est-ce qu'ils disent, les Gilets jaunes? Ils disent, on paye trop d'impôts, trop de taxes. S'ils payent trop d'impôts et trop de taxes, c'est parce que beaucoup de ces taxes et des impôts vont justement dans les amortisseurs sociaux et dans le fait que beaucoup de chômeurs, eh bien, il faut qu'on les indemnise. Alors, je suis pas contre l'indemnisation des chômeurs, entendons-nous bien, mais si on avait moins de chômeurs, notre fameux modèle social qui coûte cher et qui coûte beaucoup plus cher qu'ailleurs dans l'Europe occidentale, eh bien, nous permettrait sans doute d'avoir des meilleurs revenus et une charge, je dirais, de prélèvement qui serait bien inférieure à celle-là. Donc il y a ce problème-là. Il y a le deuxième problème qui est l'inadéquation entre l'offre et la demande. Dans certains secteurs d'activité, vous demandez à des petits commerçants, des patrons de petites entreprises, ils n'arrivent pas à trouver chaussures à leurs pieds parce que les gens ne sont pas formés pour ça. Et on a un problème où ? Ben, on a un problème dans la formation professionnelle et aussi dans l'apprentissage qui a été une voie complètement délaissée pendant très longtemps, par la faute des gouvernements d'ailleurs aussi, dans notre pays. Et puis, je pense qu'il y a une troisième chose, c'est que... Il n'y a pas, si vous voulez, un goût pour le travail qui est très prononcé quand même dans ce pays.
Ah, oh, vous pouvez non, pas non, dire non, ça. C'est vraiment réducteur.
Non, non, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que je trouve que on ne met pas suffisamment tôt quand on fait des études. Il n'y a pas suffisamment de gens qui font ou qui travaillent en même temps, si vous voulez. Je trouve que on n'a pas un système de formation qui encourage l'alternance. Et ce système d'alternance qui existe en Allemagne, qui existe en Grande-Bretagne, vous comprenez peut-être mieux là quand même. Hein,
ça va avec l'apprentissage. Vous avez raison. Ça, c'est vrai qu'il faudrait le développer.
Il n'est pas suffisamment développé, y compris dans nos métiers. D'ailleurs, je peux le dire ici à ce micro. Par exemple, au FIAO, on a de plus en plus, et c'est heureux, des jeunes à qui on met le pied à l'étrier, mais qui sont en système d'alternance et qui, si ce système n'existait pas, très vraisemblablement, eh bien, ne trouveraient pas d'emploi.
On n'a pas entendu Xavier.
Moi, j'adhère à tout ce qui a été dit, naturellement, et particulièrement au fait que nous vivons dans une société où les travailleurs ne sont pas des gens qui sont dans une situation de privilège. Il n'y a pas d'un côté des chômeurs qui vivraient de manière dramatique, et puis des gens qui sont au travail et qui vivraient de manière absolument confortable. Et les chiffres rappelés par Olivier Ravanello sont là pour nous pointer cette extraordinairement difficile réalité qui prend tout son corps dans les rues avec les gilets jaunes, même si, encore une fois, les gilets jaunes ne sont pas un tout absolument cohérent. Mais on voit bien qu'il y a, dans ces gilets jaunes, un certain nombre de gens qui sont au travail tous les jours et qui ne gagnent pas assez. Je voudrais simplement rappeler quelques chiffres. Le premier, c'est que on parle d'une embellie. C'est-à-dire qu'en 3 ans, on aura, je crois, récupéré 160 000, on aura fait baisser 160 000 le nombre de chômeurs dans la catégorie A dans ce pays. Or, en fait, dans les années, entre 2005 à 2013, ça va être ça les statistiques, le chômage a augmenté de 1 600 000. Et donc, on est dans une situation où on n'a rien réglé du tout. Le chômage demeure. Donc, effectivement, il y a des effets qui sont probablement liés aux conséquences du CICE, d'un certain nombre de mesures qui ont été prises et qui probablement ont permis à un certain nombre d'entreprises d'embaucher. Mais ça ne résout pas le problème de fond. Et il y a 2 points moi, sur lesquels je voudrais qu'on insiste. Le premier, c'est est-ce que la France se rend bien compte, et le système de solidarité auquel nous sommes tous très attachés s'appuie sur une économie qui n'est plus tout à fait en phase avec l'économie du monde. Et donc, est-ce que nous sommes capables à long terme de continuer de vivre dans une France qui est sur le plan de son développement économique n'est plus tout à fait en phase? Et ça m'amène au second point qui a été pointé, enfin qui a été évoqué par Yves, et qui est la formation. Nous sommes dans un pays où il y a un déficit croissant de possibilités de remplir les offres d'emploi proposées par les entreprises, alors même que la formation ne permet pas aux jeunes d'aller vers ces emplois. Donc on a un problème d'apprentissage, on a un problème de connexion des universités avec le monde de l'entreprise, il y a traditionnellement une méfiance des enseignants et de l'enseignement dans ce pays à l'égard du monde du travail, et là je rejoins Yves, et ça il faut qu'on le guérisse, parce qu'on a pris 30 ans de retard. Alors, je dis pas que le modèle allemand est idéal, parce que le modèle allemand c'est aussi un modèle d'emploi précaire pour beaucoup, donc les chiffres du chômage en Allemagne sont probablement beaucoup plus bas que les nôtres, mais avec des emplois qui sont encore plus précaires que les nôtres.
Non, mais
la réalité, c'est qu'il faut tout de même que la France s'interroge, que nous nous interrogions tous sur le fait que nous avons des jeunes que nous ne formons pas au monde d'aujourd'hui ni de demain.
Non, mais enfin, on a des jeunes qu'on met dans un entonnoir hallucinant avec Parcoursup. Vous avez vu, c'est le deuxième acte de Parcoursup. Non, mais je suis désolée. Que c'est pareil.
L'entonnoir précédent n'était pas tellement bien.
Je ne vous dis pas que les entonnoirs soient extraordinaires. Je vous dis qu'on les met dans des entonnoirs dont ils n'arrivent pas à sortir. Là où vous avez raison, c'est qu'en Francien dédain pour tout ce qui est métier manuel. Il y a toujours eu ce dédain, moi qui ai parcouru effectivement la France, qui travaillait avec tous les artisans. Je sais qu'effectivement ils ont un mal fou à recruter. Vous avez parfaitement raison. Et ça, il y a un problème aussi vis-à-vis de l'éducation nationale. Je suis désolée, mais effectivement, ça a toujours été considéré comme des filières poubelles. Je ne vois pas pourquoi les métiers manuels seraient des filières poubelles. Mais par contre, effectivement, il faut aussi qu'on arrête de se dire que ce modèle social, il faut. Enfin, moi, je le trouve merveilleux. Vous avez vu la couverture du Parisien il y a 3 jours. On réduit par deux les inégalités sociales en France. Vive les cotisations sociales, vive les aides sociales, vive le chômage. Ce que je veux vous dire, c'est que là où je suis d'accord avec Sylvain Tesson, c'est que la France est un paradis peuplé de gens qui sont persuadés de vivre en enfer. Malgré tout, cette redistribution, elle est merveilleuse.
Mais tant qu'on peut la payer.
On va détailler tout ça dans un instant.
Avec tous ces jeunes qui bossent.
On revient très vite, on reprend le monde de la suite, à tout de suite.
RTL Soir, jusqu'à jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Stéphane Carpentier.
Avec ce soir Xavier Couture, Isabelle Saporta, Yves Tréhard et Olivier Ravanello jusqu'à 20h pour décrypter toute l'actualité. On s'est arrêté longuement sur le chômage avec donc les derniers chiffres du dernier trimestre de cette année 2018. C'est en retrait, en baisse de 1,1%. Isabelle Saporta, Yves Tréhard disait tout à l'heure, pour justifier tout ça, qu'en France, les Français n'ont pas forcément toujours le goût au travail.
Moi, j'aime pas quand on dit ça. J'aime pas, c'est généralisé. Non, mais je comprends, vous avez décidé.
On n'est pas suffisamment tôt le pied à l'étrier.
Là où vous avez raison.
C'est ça que je voulais
là
dire.
Là où vous avez parfaitement
et ça,
raison.
Vous prenez goût plus davantage. Enfin, davantage
je
ne
sais pas
travail.
Si c'est une question de goût au travail. Par contre, pied à l'étrier, c'est une chose. Vous avez raison sur l'alternance, vous avez raison sur l'apprentissage. Moi,
Et pas uniquement dans les métiers manuels.
Mais bien sûr que non, mais nulle part. On apprend. On forge en devenant. Voilà. Mais vous avez tout à fait raison là-dessus. Ça, c'est un truc très français. Mais pourquoi? Parce que moi, j'ai rien contre les profs. J'adore les profs. Ils font un métier extraordinaire et qui est très, très difficile. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, les professeurs sont des gens qui n'ont jamais quitté l'école. Ça, c'est pas un problème pour moi. Mais c'est vrai que ce sont pas des gens qui sont dans le monde du travail. En Allemagne, par exemple, il y a une porosité, effectivement, entre le privé et l'éducation nationale. En France, c'est pas le cas. Et du coup, c'est vrai que quand vous avez affaire même au conseiller d'orientation, on a l'impression, enfin, moi, j'ai jamais eu un conseiller d'orientation qui a été capable de m'orienter. Et donc là, effectivement, il y a aussi une fracture qui se fait socialement entre les bourgeois. Je suis une fille de bourgeois, hein, qui sait où il faut aller, quelles sont les bonnes écoles, quelles sont les bonnes filières, et les autres qui n'ont pas toutes ces aides. Et là, vous avez raison, ce serait se cacher derrière son petit doigt, pardon, que de ne pas le voir.
Il n'y a pas que l'éducation nationale, quand même. Je pense que moi, c'est un dada sur lequel je chevaucherai allègrement ici, mais qui est le fait que nous sommes tout de même dans un pays très centralisé, issu de centaines d'années de centralisation et auquel le post-1945 n'a rien arrangé, et qui a une très grande, je dirais, plus que porosité, c'est une endogamie entre le monde de l'État, le monde de l'administration et la politique. Et la plupart de nos politiciens depuis 70 ans n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise, ou alors c'était par hasard, ou alors c'était pour aller dire bonjour au président. Donc il n'y a pas une culture de l'État, il n'y a pas une culture politique de l'entreprise, de ce qu'est la création de richesse et de valeur. Et ça, c'est pas que la valeur travail, parce que je pense que nos fonctionnaires travaillent beaucoup, les professeurs travaillent beaucoup, et c'est pas, je pense qu'il y a un déficit de culture de ce qu'est la production, l'idée de la création de richesse. Et ça, c'est un vrai problème dans un pays où les politiques n'y arrivent pas.
Olivier, au moment des Trente Glorieuses, les élites, elles venaient de l'industrie?
Non, pas plus.
Non,
pas plus.
Mais au moment des 30
glorieuses. Dirigé par un type qui était militaire. Vous aviez des gens qui sortaient, c'était les premières générations qui sortaient de l'ENA. Donc vous aviez, et au contraire, on disait, ces mecs-là sont brillants et c'est eux qui poussent les entreprises et qui alimentent le.
Mais Olivier, vous avez tout à fait raison. Mais c'était à partir de ce moment-là qu'on a effectivement. C'était les 30 glorieuses, hein. Mais pendant les 30 glorieuses, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons été rattrapés et dépassés par une industrie allemande et par une production allemande. Nous avons même été rattrapés à un moment par les Anglais. Donc, on voit bien que les Trente Glorieuses, qui étaient par définition les Trente Glorieuses, qui s'appuyaient sur le plan Marshall et sur un développement fondé sur le dollar, nous permettaient de ne pas mettre en œuvre ce qu'il fallait pour affronter les temps difficiles. Mais à partir de 1973, quand les temps sont devenus difficiles, là, on s'est aperçu que la France avait du retard structurel.
Mais je crois qu'il y a quand même, un point central. Alors, vous allez me dire, c'est assez classique que de le dire, mais je trouve que les prélèvements obligatoires sont quand même un frein dans notre pays. Quand vous voyez ce qu'ils pèsent dans notre pays.
Et mais c'est ce qui permet de payer les subventions sociales. Il n'y a pas l'un sans l'autre.
Je suis d'accord avec vous. Ça permet de payer notre modèle social et ça permet d'amortir quand il y a des coups durs comme la crise de 2008 où la France s'est retrouvée un peu moins dans le décor que d'autres pays occidentaux. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que cet argent qui est prélevé, il va peut-être pas au bon endroit, il est peut-être pas bien prélevé comme il faut.
Le pognon de dingue.
C'est-à-dire que le pognon, mais bien sûr, mais évidemment, quand vous avez quand même un pays, je suis désolé, mais un pays qui a 10% de chômeurs, aujourd'hui c'est 9, mais qui a 10% de chômeurs, ne peut pas moralement aller bien. C'est pas possible. Et quand vous avez 10% de chômeurs, ben ça veut dire que il y a pas d'enthousiasme dans ce pays. Et regardez d'ailleurs les tous nos ingénieurs, tous ceux qui sortent des grandes écoles, pour ne parler que d'eux, mais c'est pas eux qui font la France, quand ils veulent monter leur boîte, bah, ils se tournent d'abord vers l'étranger avant de venir ici, avant de faire ici. Pourquoi? Parce que ici, c'est une véritable usine à gaz. Quand vous voulez embaucher quelqu'un, on va le faire très vite. Quand vous embauchez quelqu'un à 100 euros, il coûte 200 euros à la boîte. Hein, en charge et après
un
peu moins, mais bon, pas tellement moins. Donc, c'est, on est quand même dans un système qui est
désolée,
un système
mais
qui est mal foutu.
Écoutez, d'accord, alors, excusez-moi, mais en France, on est un pays merveilleux où on ne paye pas la médecine, on ne paye
si
pas
vous
l'hôpital.
La payez par vos,
non,
vous
je suis désolée,
impôts,
non, mais je suis désolée,
hein.
Si vous voulez, il y a un moment, il faut quand même redire les choses aussi. Les entreprises aujourd'hui. Non, mais d'accord, mais sauf que vous faites comme si les
j'ai
impôts.
Pas dit ça.
Excusez-moi, laissez-moi
je
finir.
Je suis le premier à dire que l'école est gratuite.
Non, mais d'accord.
La médecine est gratuite.
Et bien alors, ça se paye. Et bien donc, tout se paye.
Sauf que. Il y a, je suis persuadé qu'on
les infrastructures
garder,
sont merveilleuses garder, en France. On a des routes incroyables.
On peut garder ce niveau de service public en
sans
utilisant
payer
mieux notre argent.
Non, mais Isabelle,
et probablement
peut,
en faisant des économies. Parce que si on se met la tête dans le sac, on progresse.
Mais c'est pas le problème de se mettre la tête dans le sac. C'est le problème, c'est que vous savez bien qu'ici, il y a des entreprises étrangères qui viennent investir en France. C'est aussi pour ça. Parce qu'on a un niveau d'infrastructure incroyable. Parce que quand ils vont investir à l'étranger, ils se rendent compte qu'à ce moment-là, il faut payer
l'école des enfants,
l'équivalent de la sécurité sociale qui sont.
Personne n'est dit l'inverse.
Il n'y a pas de solution magique.
Mais
faut bouger,
on ne dit pas l'inverse.
Ce n'est pas une pétition
de
principe, c'est une défense du service public à la française.
Mais ce n'est pas binaire. On le défend autant que vous. Moi, je le défends autant que vous.
Un peu moins
autant que vous. Peut-être même plus, d'ailleurs. Parce que ce que vous défendez, c'est que c'est un système qui ne peut pas perdurer.
Et pourquoi il ne pourrait pas perdurer?
Parce qu'à 57% de dépenses publiques et 2200 milliards de dettes, il suffit qu'on ait des taux d'intérêt qui remontent un peu. Et pourquoi ne remonterait-il pas? Et on explose. Donc oui, quand on regarde le Danemark, quand on regarde la Suède, qui ont des protections sociales qui sont comparables aux nôtres, mais où la dépense publique est largement inférieure, un peu au-dessus de 50%, 51%, 52%, quand on est à 57%, ce qu'on dit simplement, c'est d'essayer de réfléchir à économiser 5, peut-être 10% de la dépense publique pour pouvoir la supporter à long terme, parce qu'on le défend comme vous, ce modèle.
Voilà, ils sont très en forme ce soir. Yves Tréhard, Isabelle Saporta, Xavier Couture et Olivier Ravanello reviennent dans un instant dans Orfait le Monde sur RTL
Soir,
on refait le monde avec Stéphane Carpentier.
Ce soir, Yves Tréhard, Isabelle Saporta, Xavier Couture, Olivier Ravanello à mes côtés pour commenter l'actualité d'Emmanuel Macron qu'on voit un peu partout en ce moment, qu'on écoute beaucoup en tous les cas et qui respire un peu dans les sondages, plus 4 points d'après le baromètre BVA pour RTL à 31% d'opinion favorable. Les Français donnent sa chance à son grand débat puisque 51% attendent de voir ce qu'il en sortira. Demain, ce sera le 11e jour de mobilisation des Gilets jaunes. Dimanche, ce seront les foulards rouges qui défileront, qui se proclament d'ailleurs ni pro-Gilets jaunes ni pro-Macron. Est-ce que le chef de l'État est en train de reprendre un petit peu la main dans ce dossier?
Oui, évidence. Évidence. Et ça ne tient pas, de mon point de vue, à l'idée du grand débat, même si c'est une bonne idée. Mais Hollande fait la même chose. Il ne reprend pas la pente de la même manière. Ce qui est frappant depuis deux semaines, c'est le charisme qui dégage, c'est la façon dont on retrouve le Macron de la campagne, qui était extrêmement convaincant. Et en revanche, on peut s'interroger pour savoir si le Macron qui gouverne arrive, lui, à être convaincant, parce qu'il est au final assez illisible. Mais dès qu'il reprend la parole, dès qu'il essaye de convaincre, il arrive à faire face et démontre à la fois que c'est quelqu'un de brillant, que c'est quelqu'un qui connaît bien les dossiers, et surtout qu'il a une vision cohérente de son projet. Alors que quand, au quotidien, vous essayez de voir telle mesure portée par un tel, telle mesure portée par un autre, on a déjà eu ce débat ici avec Yves, on finit par pas comprendre ce qu'ils essayent de faire. Par contre, quand lui vous dit on va faire comme ça, et sur tel et tel et tel dossier, vous comprenez et vous adhérez ou pas, mais en tout cas, vous avez une vision politique.
Vous êtes en train de dire qu'il n'y a que lui qui soit bon, en fait, c'est ça que...
Ah, mais ça fait longtemps que je dis que dans cette équipe, c'est le seul qui est au niveau. Et que c'est son drame, c'est qu'il n'a personne autour de lui.
Il n'a pas trop de concurrence.
Mais que, aussi, le problème, c'est qu'il met le niveau tellement haut que ça ne doit pas être facile non plus d'arriver à suivre. Il n'empêche que je trouve qu'il reprend la main et je suis prêt à prendre des paris comme quoi ils vont faire un très bon score aux européennes.
C'est Bernard Tapie qui disait... si jamais il avait démissionné et qu'il avait reconvoqué, enfin, une élection présidentielle avait été reconvoquée, il gagnerait largement et mieux que la dernière fois. Je ne suis pas tout à fait loin de le penser.
Il n'y a rien en face,
mais,
en même temps.
Effectivement, parce qu'il n'y a rien en face. Non, alors, il y a ce qu'a dit Olivier, c'est incontestable. Et moi, je n'ai jamais cru que, de toute manière, il avait perdu le cap et qu'il avait perdu. Et je pense que cet exercice-là lui permet justement d'enfoncer le clou. Parce qu'on aurait pu se dire... En entrant dans ce débat, le président de la République va un petit peu ajuster le tir, c'est-à-dire qu'il va faire plus de social, mais pas du tout. Il répète exactement la même chose. Et d'ailleurs, c'est plutôt à son crédit. Non, je pense que ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui se demandent quand est-ce que ça va se terminer tout ça et comment on va en sortir, et qui commencent à avoir peur. il y a la peur qui s'est installée dans le pays, en se disant tout ça c'est bien gentil, en plus il y a un environnement international qui est pour le moins très instable, et il y a énormément de Français qui continuent à soutenir d'ailleurs le mouvement de protestation, en condamnant les violences, mais qui le soutiennent de loin, et qui se disent, bah, falloir y sortir. Donc, pour en sortir, il faut bien parler. Et pour parler, il faut bien être constructif. Il y a beaucoup de ça chez les gens, si vous voulez. Et puis, il y a quand même un phénomène, c'est que Macron a certes été élu par un électorat de gauche, mais depuis qu'il est aux affaires, ceux qui le soutiennent en majorité, ce sont les gens de droite. Les gens de droite, même si c'est un peu cliché ce que je vais dire, sont des gens qui aiment l'ordre, sont des gens qui aiment que les choses soient à leur place. Non, non, mais vous voyez très
le
bien.
Le Figaro, et mesdames, messieurs.
Non, non, absolument pas. Ça, c'est un cliché. Ça, c'est un cliché.
Non, c'est
ce que je vais vous dire, c'est une réalité. Vous regardez, vous regardez tous les sondages
droite,
et vous regardez qu'est-ce qui se passe. C'est que il avait perdu énormément dans cet électorat de droite au début du mouvement des Gilets jaunes et qu'il est en train de récupérer tous ceux, enfin beaucoup, de cet électorat qu'il avait perdu, parce que ces gens-là se disent, bon, assez de désordre, et c'est un peu le phénomène mai 68, même s'il n'aura jamais le soutien qu'a eu le général de Gaulle le 30 mai 1968, dimanche, je vous rassure, mais il y a quand même ce phénomène-là, et il y a beaucoup de gens qui reviennent vers lui en se disant, quand même, en plus, il ne change pas de cap, et il tient bon sur l'ISF, il tient bon sur des mesures considérées comme étant des mesures de droite.
On a beaucoup critiqué ces derniers temps sa com. Hein. Je me souviens que Xavier, vous l'aviez fait il y a quelques semaines.
Oui, sauf que là, ça,
là
ça,
il a
ça...
trouvé son truc.
Non, non, mais la com, c'est lui qui l'a fait. Bah, il l'a en charge. C'est la sienne. Et c'est
mais là, il a pas de filtre à sa com. Ah, oui. La nouveauté, c'est qu'il est reparti en campagne. Il a été excellent pendant la campagne présidentielle. C'est un homme de campagne. Il aime ça. Il a fait une campagne qui était assez, moi j'ai eu l'occasion de le répéter ici, assez horizontale, au sens où il a utilisé les réseaux sociaux, il a désintermédié un certain nombre de corps qui auparavant servaient de relais dans le cadre d'une campagne électorale, même présidentielle, et il est allé tout seul au devant des Français, et il a réussi à se constituer un socle. Ce socle, il est grosso modo de 20 et des poussières de l'opinion, et bon, il y a eu des variables d'ajustement entre ça monte, ça descend, et puis effectivement, il a eu ce trou d'air. Pourquoi il a eu ce trou d'air? Parce qu'il a gouverné de manière extraordinairement verticale, c'est-à-dire qu'il a trahi sa relation avec les Français, il l'a trahi en étant autre avec un grand A par rapport à ce qu'il avait été pendant toute la campagne, c'est-à-dire un homme de proximité, au-devant des Français, très impliqué dans un système de communication qui leur allait bien parce qu'il leur parlait en direct. Qu'est-ce qu'il fait là? Il a repris son bâton de pèlerin, il est de nouveau au contact, il est dans une forme d'horizontalité, il tombe la veste, il retrousse ses manches et il dit « Monsieur, madame, je vais vous expliquer où est mon plan et quel est le sens de mon action ». Ben, les Français l'entendent. Après ça, il y a effectivement le fait qu'il gagne à droite, de manière spectaculaire, je crois qu'il a fait plus 7% sur l'électorat de droite.
Enfin, il reprend la droite.
Qu'il reprend la droite, que Wauquiez est en train de...
En plus, la droite est tellement dans l'embout.
Wauquiez font à peu près autant que le PS. Donc, il y a une recomposition du paysage politique qui fait que la droite, naturellement, se retrouve chez un président de la République qui, effectivement, aujourd'hui, émet des signes de respect de l'ordre.
Mais
ça, pour le coup, c'est rassurant.
Mais sur les sondages, il monte plutôt sur l'électorat de gauche.
Mais pourquoi, Xavier Couture? Pourquoi il monte aussi et pourquoi Wauquiez descend? C'est qu'au fond, là où vous avez tout à fait raison les uns et les autres,
il est jamais beaucoup monté.
Ce que je veux dire, c'est que là, il y a une prime quelque part aux légalistes. C'est-à-dire qu'au fond, là, il y a une prime aux gens qui disent il faut le débat national, une prime aux gens qui disent ça suffit. Hein, le mouvement des Gilets jaunes. Donc c'est vrai, là, Wauquiez, au fond, en essayant de courir derrière Marine Le Pen comme il le fait, non seulement il ne gagne pas un électeur, mais il est en train de perdre son socle qui lui dit, écoutez, en fait, c'est pas ça qu'on veut, vous avez raison, on veut de l'ordre. Par ailleurs, moi, si vous permettez, juste sur Macron, vous disiez très justement, Xavier Couture, tout à l'heure, qu'il a des intermédiaires, c'est extraordinaire, et il retrouve ce contact direct. Le problème de Macron, il est là, c'est qu'au fond, il a squeezé tous les corps intermédiaires, hein, il n'a plus parlé au syndicat, là on se retrouve exactement dans la même configuration, c'est-à-dire il descend dans l'arène, il reparle aux Français, ça va, mais sauf que c'est lui face aux Français. Quand est-ce qu'on remet Laurent Berger, les corps intermédiaires dans la boucle?
C'est
quand
à eux de jouer aussi.
Oui, non, c'est pas à eux de jouer, c'est à lui de leur faire une place.
Oui. Olivier Ravanello veut dire des choses, il va patienter deux petites minutes. On revient dans Refait le Monde, à tout de suite.
RTL soir jusqu'à 20h, on refait le monde.
Stéphane Carpentier.
Encore 5 minutes de décryptage de l'actualité avec Yves Tréhard, Isabelle Saporta, Xavier Couture et donc Olivier Olivier Ravanello qui voulait ajouter des choses sur Emmanuel Macron qui reprend la main un petit peu dans cette affaire.
Qui reprend la main, mais je pense, et la crise des Gilets jaunes, selon moi, a accentué et a peut-être cimenté définitivement, on verra avec les élections européennes, cette nouvelle répartition du paysage politique, qui en fait est maintenant un paysage politique qui est structuré autour de trois tendances. L'extrême gauche ou la gauche, la droite, extrême droite, et le centre avec Macron. Et que Wauquiez, le PS, qu'on n'a pas entendu, sont en train progressivement d'exploser en vol. Et que quoi qu'il arrive, ce quinquennat, et ce qu'il en reste, est voué et n'a pas d'autre choix que d'être en crise, parce que de toute façon, il sera tout le temps, minoritaire. Il aura toujours contre lui deux formations qui sont irréductibles, avec lesquelles il ne peut tomber d'accord sur rien, ni avec Mélenchon, ni avec Marine Le Pen, ou avec la partie la plus conservatrice de ce qui restera du clan de Wauquiez, et que donc, par conséquent, il sera toujours minoritaire et devra faire face à cette opposition. Et que ce quinquennat-là est intrinsèquement, pour moi, un quinquennat qui sera un quinquennat de crise, dans lequel la seule chose qu'il a à faire, c'est de faire les réformes qui lui semblent nécessaires, et on verra bien le bilan à la fin.
D'accord, oui, je voudrais nuancer, mais je vais faire un peu de prospective et peut-être un peu de fiction, mais c'est pas sur le quinquennat, c'est pour beaucoup d'années. Je vous invite à regarder de très près l'évolution idéologique, si on peut appeler ça comme ça, de l'extrême droite et du Rassemblement National. Et cette évolution, elle est tout à fait incroyable parce qu'elle est en train de se recentrer. Ce parti est en train de se recentrer dans le but d'absorber une grande partie de ce qu'était et de ce qu'est les Républicains. Et je suis pas loin de penser que l'avenir de Marine Le Pen, ou en tout cas de son parti, ça sera d'occuper justement ce flanc droit, débarrassé de tout le folklore anti-euro, anti... Ça y est, d'ailleurs, elle a fermé.
Ça y est, elle a fait son coming out.
Parce qu'elle a vu qu'il y avait une telle faiblesse à cet endroit-là que, et qu'il y aura toujours, à droite, des déçus de Macron, même s'il a la clientèle ou l'électorat des affaires, de l'entreprise et tout ça. Il y a quand même une clientèle à capter et je ne suis pas loin de penser qu'il y a un recentrage qui va se faire du côté de chez... Ce que n'arrive pas à faire, par exemple, Mélenchon, qui a perdu toute crédibilité, selon moi, justement, en n'arrivant pas à capter ce que le Parti Socialiste a laissé comme décombre. Mmh. Alors qu'il aurait dû jouer dans ce sens-là, compte tenu, en plus, de la faiblesse des gens qui incarnent ce ancien parti.
Mais ce n'est pas du tout la partition qu'il a jouée. Là, il est parti dans une partition rouge-brun.
C'est ce que je vous dis.
Oui, mais parce qu'il ne l'a pas essayé non plus. Il n'est pas parti vers ça. Il est parti vers une radicalisation complètement différente.
C'est ce que je suis en train de vous dire, alors que Marine Le Pen...
C'était pas clair, alors c'est pour ça que je me permets de revenir.
Pardon ?
Je plaisante.
Non, mais moi, je partage le point de vue d'Yves. Il a totalement raison. Je pense que dans cette idée que dans le fond ils vont être seuls, ce que disait Olivier, il n'y a pas d'opposition réelle, donc en étant seuls ils sont face à tout le monde, parce qu'il n'y a pas d'opposition démocratique. Depuis le début, je pense que, et c'était tout le défaut, je dirais originel du en même temps, c'est qu'en même temps effectivement ça ne laissait plus aux marges que les antisystèmes de gauche comme de droite. Je crois que, et c'est là où est-ce que Marine Le Pen peut progressivement absorber la droite traditionnelle. Enfin, est-ce que d'un seul coup, elle peut croquer l'héritage de Fillon ?
Vous avez entendu le petit jeune Jordan Bardella ?
J'ai écouté Bardella.
On n'a pas l'impression qu'il est au Rassemblement National.
Il était impressionnant. Mais je pense que de la même manière, puisqu'on le disait tout à l'heure, Emmanuel Macron remonte sur un électorat de droite avec une politique qui est de centre-droit. Ce ne sera pas si facile que ça pour le Rassemblement National d'aller folâtrer dans ces territoires-là. Je pense que la problématique number one aujourd'hui, c'est qui est capable de reconstruire une gauche démocratique derrière quelle plateforme de programmatique. Moi, je vois le Raphaël Glucksmann tenter avec Place Publique. Je trouve que son initiative est tout à fait louable, mais je sens qu'il y a beaucoup de résistance derrière chez les suivistes, que ce soit Olivier Faure, que ce soit Jadot. Enfin, on voit bien qu'il y a derrière, je ne parle pas du PC, évidemment pas de Mélenchon, qui de toute manière doit voir Glucksmann comme un Satan absolu.
Mais moi, en tout cas, ce que vous dites sur Marine Le Pen, je l'entends. Je pense que celle qui va reprendre la main, c'est Marion Maréchal Le Pen. Parce qu'elle, effectivement, elle, en plus, elle est dans
c'est
une
plus
logique.
Compliqué que ça.
Malgré tout, si vous voulez, elle ressemble plus, elle, à la droite Wauquiez que Marine Le Pen, qui est plus
moi,
sur une
politique,
politique économique.
Moi, je suis sidéré par le comeback de Marine Le Pen. On l'avait enterré entre ces deux tours.
Je suis impressionné.
Son comeback et son nouveau casting m'impressionnent.
Affaire à suivre. Merci à vous, Yves Tréhard, Isabelle Saporta, Xavier Couture et Olivier Ravanello. On refait le monde en ce vendredi. Dans un instant, le football en direct.
Vous écoutez RTL.